Vous écoutez France Culture. À voix nue. Cette semaine, Jean-Michel Djian rencontre Dominique Rocheteau. Ce soir, un footballeur engagé.
Dominique Rocheteau, nous sommes en 1978 et c'est votre première Coupe du Monde. Elle se déroule en Argentine et ce n'est pas une Coupe du Monde anodine puisque vous êtes quelqu'un d'engagé politiquement, vous étiez proche du communisme.
Non,
alors avant de parler de Videla en Argentine, parlons un peu de cet engagement politique que vous signalez de temps à autre. Mais c'est vrai, avec cette distance, que vous ne vous sentez pas du tout partisan, vous êtes plutôt anard, disons, dans l'esprit.
Moi, une partie de ma famille, bien sûr, très engagé politiquement. Mon oncle, d'ailleurs, a été dans les camps déportés à Buchenwald en tant que communiste. Donc, j'ai baigné un peu dans ce milieu. Mais moi, à 16-17 ans, engagé un peu politiquement, mais engagé, un peu révolutionnaire, envie de changer des choses, avec une certaine idéologie, voilà. Je vais à des réunions de la Ligue communiste à Saint-Étienne.
Ça vous a là aussi traversé l'esprit de prendre votre carte un jour ou l'autre ou vous dire
il
faut changer la société, elle n'est pas comme je le souhaite, moi je suis un idéaliste, ça ne se passe pas du tout comme prévu.
Moi c'est plus à travers des... j'ai toujours marché au feeling à travers des rencontres, voilà, qui vont. Moi, j'écoute, j'essaie de me forger une certaine culture, et puis mais c'est plus
politique.
Le côté une culture politique, oui.
Vous avez lu Proudhon.
Je bouquine pas mal. Oui, Proudhon, entre autres.
Marx.
Mais ça, c'est quand t'as 16-17 ans. Quoi,
qu'est-ce qu'il en reste quand on a 16-17 ans et quand on est footballeur en devenir?
Ce qu'il en reste, moi, à un moment, je suis professionnel et puis je dis, je me rappelle, je fais une déclaration en disant, de toute façon, moi, je suis professionnel, ouais. Moi, je veux bien jouer au foot, je peux faire une carrière, je joue au foot pour... sans gagner d'argent, quoi, pour me faire plaisir, pour m'amuser. Là, je m'étais fait un peu repris de volée.
Par Jean-Michel Larquet, notamment.
Par le milieu, quoi. Donc voilà,
c'était des petites choses, voilà. Vous le pensiez vraiment, c'est-à-dire vous pensiez que vous étiez totalement nourri de cet idéal du partage.
Oui, bien sûr. Après, mais j'ai jamais été engagé politiquement. J'avais certaines idées. Dès que j'ai pu voter, j'ai voté.
Toujours à gauche?
Souvent.
Souvent.
Souvent, écolo aussi. Enfin bon, voilà. Je ne veux pas dire que j'étais très engagé politiquement, mais par contre, quand j'avais des choses à dire, quand il y avait des prises de conscience
principes.
Je m'engageais, oui, bien sûr. Et donc, notamment. Je me rappelle Durafour, par exemple, à l'époque, m'avait essayé de m'utiliser. Donc,
Durafour, c'est le maire de Saint-Étienne.
J'avais dit non, voilà. Et il n'était pas question.
Mais vous avez manifesté.
Donc, 78.
Ouais.
78, moi, je reçois, du fait de mes déclarations, de mon engagement un peu politique, je reçois beaucoup de lettres pour boycotter la Coupe du Monde. Pour boycotter la Coupe du Monde 78. Par rapport à ce qui se passe en Argentine. Donc il y a une junte militaire en Argentine.
Dirigée par Videla.
Avec Videla, voilà. On ne sait pas énormément ce qui se passe. On ne sait pas qu'il y a des gens qui se font assassiner. Ça, on ne le sait pas trop non plus. Hein. On l'a su quand même après, hein, au fur et à mesure. Mais bon. Mais moi, j'ai quand même sur l'Argentine, j'essaie de m'y intéresser. J'ai une prise de conscience. J'ai lu quand même des choses, des bouquins. Et j'ai reçu beaucoup de lettres, quoi, d'informations pour boycotter. Bon, il est hors de question de boycotter cette Coupe du Monde. D'une part sur un plan sportif pour l'équipe de France, ça fait très longtemps que l'équipe de France n'a pas été en Coupe du Monde. On va aller dans un pays de football en Argentine, et il s'est avéré que boycotter ça aurait pas été bien sûr une solution, dans la mesure où le peuple argentin l'attendait, cette Coupe du Monde. Les Argentins, le football, c'est leur histoire aussi, ils sont dans cette culture, donc ils attendaient cette Coupe du Monde. Donc moi je m'étais dit, moi et puis d'autres, hein, j'étais pas le seul, qu'on pourrait peut-être sur place parler de ce qui se passe, parler à travers les médias. Donc il y a une rencontre avec Bernard-Henri Lévy qui est venu en Argentine, on le rencontre à l'ambassade de France. Il nous propose de venir dans notre centre d'entraînement pour parler avec nous, donc organisation de petite réunion. Tous les joueurs ne viennent pas, il y a quelques joueurs qui viennent. Hidalgo est là.
Michel Hidalgo.
Michel Hidalgo, oui. Mais en fait. Ça
ne prend pas.
Ça ne prend pas. Et puis nous, on se dit, on essaiera au fur et à mesure de la Coupe du Monde, lors des matchs, de dire un peu de. Comment dire ?
Que vous dénonciez ?
Dénoncer, c'est un grand mot. Parce que bon, on était en Argentine. On était entouré par tous les. C'est un état policier là-bas.
Chercher un acte symbolique.
Faire un acte symbolique, ouais, comme vous dites. Mais bon.
Il y a eu le brassard noir. Vous avez tenté, vous avez suggéré,
ouais,
mais on à était vos pas... collègues, ouais, ouais. Sur le terrain de porter un brassard noir.
Oui, mais bon. Mais je ne veux pas me désolidariser des autres, parce que peut-être il y avait pas mal de joueurs aussi qui. Ils ne savaient pas ce qui se passait exactement, voilà, donc...
Mais par manque de curiosité ou par absence
peut-être.
De conscience politique ?
Absence de conscience politique aussi, sûrement, je ne sais pas. Donc voilà, ça s'est très vite étouffé.
Ouais.
Et puis en plus, on s'est fait éliminer relativement rapidement, ouais. Cette Coupe du Monde.
Ce qui, du coup, arrangeait bien les affaires.
On joue contre l'Italie, le premier match, on perd, on joue contre l'Argentine, à River Plate, là, un match par contre sur le plan... Football, c'était fabuleux, parce que et quand je parle des supporters argentins, la fête qu'ils faisaient aussi après les matchs dans la ville, quoi, c'était assez exceptionnel. Maintenant, c'est vrai que cette Coupe du Monde, j'ai le sentiment que tout a été fait pour que l'Argentine gagne, quoi. Il fallait que l'Argentine gagne, ça c'est sûr. Donc nous, on s'est très vite fait éliminer. Moi, on était resté un petit peu quelques jours après s'être fait éliminer. Je me rappelle, j'avais fait quelques sorties, parce que par un coup du monde, on était complètement enfermé dans les hôtels, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Donc on n'avait pas de relation avec la population, avec les... Voilà. Et j'avais rencontré des étudiants avec qui on avait parlé, mais on sentait qu'ils avaient peur, ils avaient peur de parler. Voilà.
Est-ce que vous ressentiez un vrai malaise ?
Oui, bien sûr. Ah oui, oui, complètement.
Mais aussi
c'est comme dans, ils essayaient de cacher ce qui se passait, mais on sentait que c'était quand même
une chape de plomb.
Ah oui, et puis un état militaire, quoi. Il y avait beaucoup de militaires autour de nous, voilà. C'était oui, bien sûr. Mais à côté de ça, Videla, il fallait qu'il montre aussi une image de fête. Donc c'est vrai aussi que les gens faisaient la fête aussi après les matchs, hein, après les victoires de l'Argentine, bien sûr. Et il fallait que l'Argentine soit championne du monde, c'était important.
Et dans la sélection française qui donc a été retenue pour cette Coupe du Monde, est-ce que vous aviez dans cette sélection d'autres joueurs qui partageaient votre, non pas votre malaise, mais votre interrogation ?
Oui, bien sûr, je n'étais pas le seul. Mais bon, je ne vais pas faire... oui, quelques-uns, oui, bien sûr.
Mais pas assez pour faire...
Pour se mobiliser, voilà, en gros. Mais bon, j'en pense aussi, les joueurs étaient venus aussi pour c'était une Coupe du Monde, on voulait obtenir le meilleur résultat possible, il y avait ça aussi. Donc
on est toujours tiraillés.
On est tiraillés, on est pris entre deux feux. En fait, pendant cette Coupe du Monde, y a ces Hollandais qui ont manifesté lors de la finale, je ne sais plus de quelle manière, avec un brassard, je
voilà,
crois.
Un brassard noir.
Brassard noir, quand ils ont joué contre l'Argentine. Mais ça a été les seuls. Parce que moi, quand je reviens d'Argentine, par rapport à ce que j'avais dit dans les journaux, déclarations, puis il ne faut pas oublier que la presse aussi française, pas sportive, ne parlait pas hein, de ce qui se passait en Argentine. Ils n'en parlaient pas.
C'était donc, même critiqué à l'époque.
Voilà.
La presse, la grande presse, entre
voilà,
guillemets,
voilà.
Les grands journaux.
Ouais, ouais. Ce n'était pas forcément évident. Et moi, je sais que j'ai eu des retours de bâton, quoi. On m'a dit, mais de quoi tu te mêles de certains joueurs argentins qui jouent en France. Mais pourquoi tu dis ça de notre pays, voilà, quoi.
Est-ce que là, vous avez perdu un peu, Dominique Rocheteau, de vos illusions?
Non, non, je pense pas. Non, non. Non, non, j'ai toujours eu... Moi, j'ai toujours eu un esprit assez positif, toujours aller vers l'avant. Non, non, je n'ai pas perdu mes illusions.
Même pour en revenir à ce match de Kiev où vous étiez en URSS, dans ce pays que vous imaginiez un grand pays modèle, vous n'avez pas été déçu?
Non, parce que pas déçu,
de
pourquoi?
De voir l'armée à un mètre de
ben non, parce que
terrain de foot?
Ben non, parce que d'une part, peut-être... Enfin, mon idéologie, elle n'était pas au niveau de ces pays-là, du communisme. Mon idéologie, elle n'était pas à ce niveau-là. Elle était plus au niveau de la liberté. Et je n'étais pas dupe. En allant en URSS, je n'étais pas dupe non plus. Même quand j'avais 20 ans, je savais ce qui se passait là-bas, comment ça se passait. Voilà. Donc, non. Pas de perte d'illusion. Réaliste.
Ça représente quoi de faire une Coupe du Monde pour un joueur professionnel, Dominique Rocheteau?
Ben oui, c'est pour ça aussi. Bon, ma première Coupe du Monde en Argentine, pour moi, c'était un rêve d'enfant, quoi. Parce que mes premiers grands matchs de football que je regardais à la télévision, c'est les Coupes du Monde, c'est 66 en Angleterre, avec Eusebio, à l'époque,
Pelé.
Au Portugal. Pelé, mais l'Angleterre, c'est pas là où il a fait sa meilleure Coupe du Monde. Après, c'est en 70, où là, avec le Grand Brésil, et Pelé, bien sûr. Et je pourrais parler de plein de grands matchs, l'Italie-Allemagne, enfin bon, qui sont restés dans mes souvenirs et dans ma mémoire. Pour moi, le football, je l'ai aimé, le football de haut niveau, je l'ai aimé à ce moment-là, quoi.
En plus, c'est la télévision qui arrivait dans les années 66. La première Coupe du Monde, c'était en Angleterre. On l'a regardé à la télévision. C'était l'âge où, précisément, vous étiez en espérance de football.
Où j'étais passionné.
Passionné.
Oui. Où je regardais un match, puis après j'allais dans mon jardin essayer de refaire les mêmes gestes.
Quel souvenir, Dominique Rocheteau, vous conservez de cette première Coupe du Monde, au-delà des aspects politiques, au-delà... Est-ce que c'est une équipe de France qui reste encore très impréparé par rapport aux enjeux du football mondial? Est-ce que c'est une équipe qui veut apprendre, veut grandir?
En fait, cette équipe, elle est composée de deux générations. Notre génération, avec Michel Platini, Bernard Lacombe, Dominique Battenet, parce qu'il y a des Stéphanois aussi, Patrick Battiston. Cette nouvelle génération, on a tous 20 ans, 21 ans, et l'ancienne génération, des Henri Michel, Jean-Marc Guillou, Jean-Michel, il n'est pas là, je crois pas. Enfin, deux générations qui composent cette équipe, et avec un manque quand même d'expérience de ce niveau-là, parce que ça fait très longtemps que l'équipe de France n'a pas été en Coupe du Monde. Et puis on a la malchance aussi quelque part de parce que nous à l'époque on n'était pas protégés vu qu'on n'avait pas trop bons résultats avec l'équipe de France, donc au tirage on tombe contre les deux meilleures équipes de l'époque au monde, quoi, l'Italie et l'Argentine qui vont jusqu'à l'Argentine qui a la Coupe du Monde et l'Italie qui va en demi-finale, donc on a cette malchance, voilà, en fait c'est ça je crois. Et puis pour l'anecdote, comme pour dire qu'on n'était pas, comme vous dites, hyper bien préparé, on fait ce troisième match parce qu'on fait trois matchs, on perd contre l'Italie, on perd contre l'Argentine, mais là on a fait un super match quand même, on a fait un match magnifique à River Plate devant 80 000 supporters argentins. Et le troisième match contre l'Anglie, où le responsable, l'intendant de l'équipe, quoi, oublie les maillots, quoi, et donc on est obligé au dernier moment. Il a un jeu de maillot en fait qui est le même maillot que la Hongrie, la même couleur, et donc on peut pas jouer avec. Et donc obligé d'aller, à une heure avant le match, on est obligé d'aller chercher un jeu de maillot dans un petit club à côté. Et c'est là où l'équipe de France joue en maillot vert rayé vert.
Je sais plus comment ça s'appelle. Comment c'est possible, Dominique Rochaud, de faire de telles erreurs à ce niveau de match?
C'est possible puisque ça. Ça a eu lieu et malheureusement pour cette personne, elle avait été. Bon, après, on ne l'a plus vue, quoi.
Vous-même, vous avez dû être estomaqué
ouais,
d'avoir apporté des maillots verts.
On avait gagné quand même. Hein. On a gagné.
Vous avez gagné. Mmh. Et alors, vous avez, quelques années plus tard, poursuivi cette trajectoire internationale en étant sélectionné pour une deuxième Coupe du Monde.
J'ai eu la chance de jouer trois Coupes du Monde, donc 78 en Argentine. 82 en Espagne et 86 au Mexique. Donc 82 en Espagne, c'est toute ma génération. On est tous en pleine force de notre carrière. On a tous avec Michel Platini, Jean Ticana, Alain Giresse, beaucoup de grands joueurs. Et cette Coupe du Monde en Espagne, je pense que c'est pas par hasard qu'on nous appelait le Brésil européen, je sais plus. C'est vrai qu'on a fait une Coupe du Monde magnifique, on s'est fait plaisir. Et puis il y a eu cette fameuse demi-finale contre l'Allemagne, encore une fois. Je dis encore une fois parce que à chaque fois les Allemands n'ont pas tellement réussi à notre époque, hein, puisqu'on perd contre le Bayern de Munich avec Saint-Etienne. À chaque fois qu'on joue contre les Allemands, on se
éliminer. On perd.
Et avec, il devait y avoir un complexe. Et puis c'était une grande équipe, bien sûr. Puis cette demi-finale, donc, qui a marqué beaucoup de monde, pour moi, ça a été plus qu'un match de football, quoi. C'était un spectacle, quoi. Enfin, un mélodrame, quoi.
Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement?
C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à l'époque qui sont intéressés au football, alors qu'ils n'aimaient pas le football.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pendant ce match où on a vu plus qu'une blessure, un acte
oui, alors il y a eu cette agression, je dirais, de Schumacher sur Patrick Battiston.
Alors, Schumacher, qui est le gardien de l'équipe allemande.
Gardien de l'équipe allemande.
Et Battiston, qui est donc.
Qui est notre défenseur, et qui s'est retrouvé devant le gardien, qui avait pratiquement marqué le but. Et qui nous aurait peut-être qualifié pour la finale, et qui s'est fait agresser par le gardien allemand, Schumacher, qui avait eu une attitude pendant tout le match très très bizarre, très très agressive. On a pu le remarquer pendant tout le match. Il avait fait un penalty sur moi d'ailleurs. Michel Platini avait marqué. Et donc un sentiment d'injustice parce qu'on voit notre copain qui est
inerte sur la pelouse,
qui a une très grave blessure au cervical et qui sort, qui va à l'hôpital et nous on continue à jouer mais on ne sait pas vraiment ce qu'il a. Le gardien il n'a rien eu, lui il continue à jouer, le Schumacher. Donc un sentiment d'injustice. D'ailleurs l'arbitre qui a arbitré ce match, je crois qu'il a pu arbitrer après. Hein, je crois qu'il a été mis un peu à l'écart, c'était en fin de carrière. Malheureusement, on a. Puis il y a eu ce déroulement du match, quoi, où à prolongation, on mène 3-1 avec des buts superbes de Trésor de Giresse. Et nous, pour nous, 3-1 à 10 minutes de la fin, à un quart de la fin, quoi. On la touche cette finale, quoi. Et c'est cette équipe d'Allemagne qui revient au score parce, avec toutes leurs qualités qu'on connaît, quoi. Ils vont jusqu'au bout, et ils arrachent cette qualification au pénalty. Grand sentiment de, à la fois d'injustice, mais bon, grand sentiment aussi quand même d'avoir fait un match magnifique, qu'on avait tout donné, que ça avait été un spectacle fabuleux, voilà quoi. Donc quand même qu'il y avait du positif aussi.
Vous étiez où sur le terrain au moment où Batiston a été agressé, juste à côté.
Mmh.
Et là, toutes les hypothèses vous ont traversé l'esprit.
Bah, on voit qu'il est, c'est grave. Mais
vous le pensiez mort.
Non.
Certain.
Bah, mais il était comateux, quoi, bien sûr. Mmh. Mais il ne pouvait plus bouger. Mais bon, bah, voilà, le match continue. Hein.
Ce qui revient des observateurs, non pas forcément sur le terrain, mais aussi dans les tribunes, c'est que le gardien allemand était dans un état, lui, second.
Ouais, ouais, ce que je vous ai dit, complètement. Très agressif, très...
Mmh. Ah, on ne sait pas.
Je ne sais pas, on peut supposer, mais...
Ce qui pose le problème, vous n'êtes pas indifférent à la violence, vous faites partie des joueurs de football qui avaient eu le moins de cartons. Aucun carton rouge, deux cartons jaunes, je crois, dans votre carrière.
Un ou deux,
c'est rien du tout par rapport à ce qu'on connaît. Vous avez toujours été sensible à cette manière de jouer, de respecter l'adversaire. Et quand vous voyez ça en 82 sur un terrain de foot à ce niveau-là,
mais moi je respecte le Zassin, mais je respecte enfin moi, puis beaucoup de joueurs, j'espère. Je respecte les règles, surtout le jeu, mais les règles. Et les règles, c'est l'arbitre. Donc l'arbitre, moi j'ai toujours fait confiance à l'arbitre. Voilà. Donc c'est...
Même quand l'arbitre, à l'évidence, peut faire aussi des erreurs, vous respectez.
Moi j'ai le sentiment que l'arbitre peut faire des... Oui, voilà, peut faire des erreurs. Et c'est ce que je me suis toujours dit. Quoi. Voilà.
Les agressions peut-être un peu naïf, physiques dont vous avez été victime, puisque vous avez eu plusieurs blessures au cours de votre carrière, comme tous les joueurs, mais... Puisque vous étiez lié droit et surtout avant-centre, vous êtes plus exposé que d'autres. Quand vous voyez un adversaire vous agresser, comment vous réagissez ?
J'ai réussi à me faire respecter, parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de coups quand j'étais jeune, au tout début de ma carrière, parce que je n'ai pas l'expérience, et puis parfois tu pouvais tomber sur des défenseurs assez rudes, qui utilisaient des gestes assez agressifs quoi pour te blesser quoi parce que c'est vrai que dans la période il y avait les matchs n'étaient pas toujours télévisés donc parfois on pouvait quand même pouvait dépasser les limites et mais bon moi j'avais toujours le sentiment j'ai jamais répondu parce que respect du jeu, respect des règles, donc il y avait un arbitre qui était là. Et puis c'est comme ça aussi, je me suis aperçu au fur et à mesure, et puis bon, j'avais ce sentiment-là, c'est comme ça aussi que je me suis fait respecter au fur et à mesure de ma carrière. Et par la suite, j'ai pris beaucoup moins de coups, et puis voilà, je me suis fait respecter en ayant un comportement justement que tu dois avoir normalement sur un terrain, quoi.
Alors pour vous, Dominique Rocheteau, l'apothéose, c'est aussi le premier grand championnat d'Europe 84, avec Michel Platini d'ailleurs, joué en France. Quel souvenir vous gardez, puisque vous avez gagné, la France a gagné le championnat d'Europe, la Coupe d'Europe. Quel souvenir vous gardez de est-ce que c'est les mêmes même état d'esprit que pour une Coupe du Monde? Est-ce que c'est différent? Est-ce que vous êtes parti vraiment pour la gagne? Vous avez une équipe absolument fantastique. C'était 2 ans après Séville.
On est au sommet, là. On est au sommet de... Comment dire? De notre art, entre guillemets. Mais avec des joueurs qui arrivent à maturité, tout un groupe qui se connaît bien. Donc voilà, et vraiment une équipe de potes, hein, on peut dire. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on joue ensemble. Donc voilà, et tout nous réussit avec un grand joueur là, qui a fait un championnat d'Europe magnifique, Michel Platini, qui est à l'époque seulement le meilleur joueur du monde. Donc moi j'ai eu cette chance de jouer avec lui parce que.
Et de le voir s'épanouir.
Oui, de le voir s'épanouir.
Au moment où vous étiez déjà vous.
C'est à ce moment-là qu'il. Non, il est déjà parti à la Juventus. Donc c'est là, il est devenu encore plus fort, quoi. Et donc c'est lui pour moi. L'Euro 84, c'est lui, quoi. Alors il y a l'équipe derrière, bien sûr, avec lui. Mais c'est lui. Il marque 10 buts.
Meneur,
il fait la différence, quoi. Si on est champion d'Europe, c'est grâce à lui.
Alors un mot sur Michel Platini. Quelle est la nature de votre amitié, votre complicité? Comment vous pouvez décrire ce
âge,
personnage qui restait très emblématique?
On a le même âge, on a fait les sélections même de jeunes ensemble. On a fait le concours du jeune footballeur à l'âge de 15. Mais moi, ça, je ne savais pas. J'ai vu après coup. J'ai vu après coup dans des vieux articles de journaux qu'il était là, quoi, qu'on était dans le classement quand on avait fait le concours du jeune footballeur à 14-15 ans. Donc voilà. Donc j'ai connu, bien sûr. On a fait toutes les coupes du monde ensemble. On a joué une saison ensemble, deux. Une saison ensemble à Saint-Étienne. Lui, il est arrivé en 77-78, je crois, à Saint-Étienne, avant qu'il parte après la Juventus. Donc voilà, Michel, c'est...
Qu'est-ce qui fait la différence ?
La différence ?
Entre lui et les autres.
La différence, c'est que c'était un grand leader, quand même. Hein, qui avait... Une aura, quoi. Enfin, je veux dire, qu'il y avait une.
La vista.
Ah ouais, non, la vista, ça, c'est autre chose. Ça, lui, il l'avait plus que les autres, ça, c'est sûr. Il voyait le jeu très vite. Il anticipait. Il voyait le jeu avant les autres. C'est ce qui faisait. C'est ce qui a fait de lui un grand joueur. Anticipait.
Vous êtes devenu ami ?
Ah oui, bien sûr. Alors, on se voit moins parce que, bon, chacun a ses. Ses occupations, puis lui, il a des grandes occupations à la tête de l'UEFA. Mais quand on se voit, on a beaucoup de plaisir à se revoir et à se rencontrer, bien sûr. Et puis bon, lui, il est très, il a toujours été très fidèle. Il n'oublie pas tous ses coéquipiers. Et c'est vrai que parfois, on a fait des réunions. Il a organisé des réunions, même à l'UEFA, avec les anciens joueurs qu'il a côtoyés, quoi.
Merci Dominique Rocheteau.
Merci.
C'était À Voix Nue. Toute cette semaine, Jean-Michel Dian rencontre Dominique Rocheteau. Attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Stéphane Caberlon, réalisation Anne-Pascale Desvignes, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. Demain, suite de cette rencontre entre Jean-Michel Dian et Dominique Rocheteau.